RFI, 7h30, à Paris, 5h30 en temps universel. Et tout de suite le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. Statu quo politique et petit pas mémoriel. Emmanuel Macron termine sa visite à Madagascar. 20 ans qu'un président français n'avait pas fait le déplacement sur la grande île. Il se dit prêt à l'idée d'une cogestion sur les îles éparses, revendiquée par Antananarivo. Une commission mixte d'historiens va pouvoir aussi travailler sur la violence de l'époque coloniale. Un travail conjoint vers une trêve entre Kinshasa et la FCM23 soutenue par le Rwanda. Voilà, certes une bonne idée, mais on attend de voir la suite. Réaction prudente en République démocratique du Congo après cette déclaration conjointe. 20 ans de réclusion requis contre Matata Ponyo, et nous sommes en RDC toujours. Le procès tentaculaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo approche de son terme. L'UPC et les 3R prêts à réintégrer l'accord de paix centrafricain. Annonce hier du gouvernement de Bangui qui apporte même quelques précisions sur la manière dont les négociations ont été menées. Et puis le Bénin toujours sous le choc du bilan humain de l'attaque du 17 avril, celle où 54 militaires ont été tués dans le nord du pays. La société civile fait part de sa douleur. Politique, mémoire et relations commerciales, le président français terminait hier à Madagascar. Plusieurs jours de visite dans divers points de l'océan Indien. Emmanuel Macron avait sur la table deux grands dossiers en particulier sur lesquels Antananarivo le presse d'agir. D'une part, la question mémorielle, la sanglante répression coloniale que la France a menée sur la Grande Île. On apprend ainsi la création prochaine d'une commission mixte d'historiens pour travailler sur le sujet. D'autre part, la question des îles éparses, petit chapelet de terre dans le canal du Mozambique, administré par la France mais revendiqué par Madagascar. Pauline Le Troquier, Paris ne semble prête qu'à de tout petits pas sur ce dossier.
Emmanuel Macron garde son cap. Face à la presse, le président a levé tout doute sur une éventuelle évolution de la posture française dans le différend des îles éparses. Madagascar revendique ces îles contrôlées par la France. Pour Paris, il n'est pas question d'envisager leur restitution, mais bien une cogestion, fait savoir Emmanuel Macron.
Eh bien, nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et en quelque sorte, on la gère ensemble. Ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différend entre Madagascar et la France. On a tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté à réussir, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats qui sont picrocolins. Par contre, on décide ensemble de manière respectueuse.
Quelques heures plus tôt, le président français s'est emparé d'un autre différend territorial à la tribune du sommet de la Commission de l'océan Indien. Il a plaidé devant ses homologues pour l'intégration de Mayotte au sein de l'organisation régionale. Un geste perçu comme une provocation par le chef de l'État comorien qui revendique ce territoire. En réponse, Azali Assoumani a réaffirmé la souveraineté de Moroni sur Mayotte en s'appuyant sur plusieurs résolutions des Nations Unies dans ce sens. Sur le plan de la mémoire, enfin, Emmanuel Macron a fait une annonce attendue, l'ouverture d'une commission mixte franco-malgache chargée de se pencher sur l'insurrection de 1947. Cette révolte initiée par les paysans malgaches contre les troupes coloniales françaises a été réprimée dans le sang pendant 21 mois. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
Des réactions d'optimisme contenues en République démocratique du Congo après l'annonce d'un travail conjoint vers une trêve avec la FCM23. Avant-hier soir, pour rappel, Kinshasa et le groupe armé soutenu par le Rwanda ont fait savoir ensemble qu'ils allaient œuvrer dans cette direction. Cette déclaration, si théorique soit-elle, reste un premier pas qui ne semblait pas envisageable ces derniers mois, lorsque les miliciens s'étaient emparés de larges portions des provinces des Kivu dans l'est de la RDC. Alexandra Branjon, personne encore ne crie victoire aujourd'hui.
Médiateur dans cette crise, le Qatar salue cette avancée et appelle Kinshasa et la FCM23 à poursuivre le dialogue dans un esprit constructif. En RDC, la Lucha, bien que saluant tous les efforts, y compris ceux du Qatar, rappelle que les précédents dialogues avec les rébellions armées soutenues par des États étrangers n'ont pas pu ramener la paix au Congo. Le mouvement citoyen met en garde contre des accords de paix récompensant les criminels au détriment des victimes. Prudente également, l'opposition politique se félicite de cette déclaration conjointe et d'une éventuelle trêve. Mais pour la coalition Lamuka, il ne s'agit que d'un premier pas vers un dialogue intercongolais inclusif qui doit mener à la résolution des différentes crises dans le pays. Avis partagé par Envol, le mouvement de Delhi Sesanga, qui salue une avancée significative mais insiste sur la nécessité d'un pacte social pour reconstruire le tissu de la cohésion nationale. Réaction enfin du ministre des Affaires étrangères rwandais qui estime que cette déclaration conjointe constitue un pas important, voire décisif, vers une paix durable à l'Est, pourvu, ajoute-t-il, qu'elle soit mise en application en toute bonne foi.
Alexandra Branjon, on apprend aussi que le secrétaire d'État américain doit accueillir à Washington aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. C'est en tout cas ce qu'indique l'agenda officiel de Marco Rubio. Thérèse Kayikwamba-Wagner et Olivier Ndoundjiré attendus pour signer, je cite, une déclaration de principe sur laquelle ne filtre par ailleurs aucun autre détail. L'actualité congolaise encore est l'un des volets du procès Bukanga-Lonzo qui approche de son terme ses suspicions de détournement de fonds massifs à hauteur de près de 280 millions de dollars dans le projet notamment de construction de ce parc agro-industriel. Parmi les principaux prévenus figure l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle a requis cette semaine 20 ans de réclusion contre l'ex-chef du gouvernement. Matata Ponyo ayant refusé de comparaître en brandissant son immunité de député national. Son avocat Laurent Onyemba s'insurge contre des réquisitions qu'il juge totalement infondées.
Le chef de l'État a dit que la justice est malade parce que vous avez suivi les réquisiteurs du ministère public. Il est déconnecté de l'économie des faits. Il est déconnecté de la vérité des faits. C'est une juxtaposition d'arguments dénués de tout fondement juridique. Est-ce que vous avez vu le visage d'un procès équitable? Le visage d'un procès qui remplit les fondamentaux, les principes directeurs du contradictoire. L'état d'esprit de M. Matata est imparable, il est le même. Il s'estime être devant des gens qui n'offrent pas de garanties. Encore que vous vous rappelez qu'il a rappelé que le juge, deux des juges de la Cour constitutionnelle étaient en dépassement des mandats. Maintenant, la question en droit, ça, Matata la pose à tout juriste moyen. Quelle est la conséquence d'une décision d'un arrêt rendue par des juges qui n'ont plus qualité, qui sont en dépassement des mandats? Et c'est un scandale, c'est un délit de justice. Autant qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, autant il estime que la décision qui en résulterait ne lui serait pas opposable. Estimant qu'il s'agit d'un procès politique, les résolutions ne seront que politiques ou politiciennes.
Maître Laurent Onyemba, l'un des avocats d'Augustin Matata Ponyo, propos recueillis par Pascal Moulégois. La décision de justice est attendue le 14 mai prochain.
Bangui 99.8 FM.
Bangui, où il est 6h37 et où le gouvernement centrafricain annonce que deux groupes armés réintègrent l'accord de paix, en l'occurrence l'UPC, dirigé par Ali Daras, et les 3R de Sendebobo, deux groupes à dominante Peul. Ils ont signé un cessez-le-feu avec le gouvernement il y a de cela près d'une semaine, mais les autorités ne l'ont révélé qu'hier. Ces deux groupes faisaient partie de l'accord signé entre Bangui et 14 groupes armés il y a 6 ans, mais ils avaient repris les armes en 2021. Le général Henri Wanzet Lingisara est ministre conseiller à la présidence en matière de sécurité. Et il a dévoilé face à la presse présidentielle une partie du processus qui a conduit à ce nouvel apaisement.
Ça fait des décennies que nous nous battons et le chef de l'État, en tant que garant de la paix, a demandé à ce que les 3R qui continuaient à faire des bras de fer avec le gouvernement, le chef du branche armée, c'est M. Abdelkader, alias Bobo, qui se trouve à N'Djamena. Et c'est à ce titre que j'ai été mandaté pour me rendre à N'Djamena. À N'Djamena, conformément aux instructions du maréchal Mamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, qui a bien voulu que cet entretien soit mené par un de ses services là-bas par rapport au gouvernement tchadien. Nous avons échangé, ils ont pris des engagements. Bobo, des 3R, a décidé de réintégrer le processus de l'APPR, de faire un cessez-le-feu immédiatement dès la signature de cet accord. Puisque nous étions pour parler avec Bobo, Ali Daras de l'UPC également s'est manifesté. Et donc, nous l'avons tendu la main et Ali Daras est venu également de la partie. Avec tous ces deux groupes armés, nous nous sommes entendus. Cela s'est soldé par un accord signé et par Bobo et par Ali Daras.
Le général Henri Wanzet Lingisara, propos recueilli par Rolf Steph Domialeux. L'onde de choc et l'exigence de réponse au Bénin, les réactions sidérées continuent de se faire entendre après que le porte-parole du gouvernement a annoncé que 54 militaires étaient morts le 17 avril dernier lors de l'attaque dans le nord du pays, dans la zone dite du point triple, le plus lourd bilan depuis que les groupes djihadistes au Sahel ont commencé leurs incursions vers le sud et les pays du golfe de Guinée. Comment comprendre comprendre un tel massacre, se demande notamment Aboubacar Bapparapé. Que faire aussi pour les empêcher à l'avenir? Le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin répond à Clotilde Hazard.
On était encore sous le choc lorsque ceci est venu comme un coup de massue sur la tête de la population. Quel est l'intérêt de la coopération militaire qu'on a tant vantée avec la France et les États-Unis? C'est l'interrogation que tout le monde se pose et c'est pour ça que nous, Organisation de défense des droits de l'homme, interpellons le gouvernement et le chef de l'État pour que les mesures sécuritaires soient renforcées. Il faut que le gouvernement puisse coopérer tout au moins avec les deux pays frontaliers avec qui il est en foi. Donc, qu'on mette de l'eau dans notre vin pour que la question sécuritaire passe au-dessus des égos individuels, quoi. Les déclarations d'apaisement, tout ça, ça n'apaise plus la population. L'inquiétude monte de plus en plus et on ne sait pas quelle sera la prochaine cible.
Aboubacar Bapparapé de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin. Et pour comprendre un peu mieux les lignes de force, les zones d'action précises de ces groupes armés et la coopération quasiment à l'arrêt entre le Bénin et ses deux voisins du Sahel, vous réécoutez sur RFI.fr les explications du professeur Abdelaziz Mossi, spécialiste des questions de radicalisation à l'université de Parakou. Il était l'invité de Radio France Internationale hier. Une date enfin à marquer. Marqué d'une pierre blanche par les amateurs d'histoire et de patrimoine. Après 14 ans de fermeture et les affres de la guerre, le musée national libyen rouvre aujourd'hui ses portes à Tripoli. Il se trouve dans le cœur historique de la capitale, dans une ancienne forteresse, et il a plus d'un siècle puisqu'il a été créé en 1919. Il abrite aussi l'une des plus importantes collections de toute l'Afrique du Nord, 5000 ans d'histoire. Mais voilà, il est fermé depuis 2011 après les émeutes qui ont eu lieu quand des rebelles y ont fait irruption. Ils avaient alors détruit certaines pièces en rapport avec le colonel Muammar Kadhafi, mais les objets les plus précieux avaient pu être déménagés et conservés dans un lieu sûr par le personnel. Ouda Ibrahim.
Ce sont ces milliers de pièces riches et variées qui retracent l'histoire de la Libye, de la préhistoire à l'indépendance du pays en 1953, qui font de ce musée une référence. Les objets représentent les époques phéniciennes, puniques, grecques, romaines, byzantines et ottomanes. Une importante section est dédiée aux anciennes tribus libyennes et leurs traditions. Une autre expose l'histoire naturelle du pays avec une collection unique de fossiles et de dessins rupestres. La réhabilitation a pris plusieurs années, entrecoupée en raison des conditions sécuritaires. Elle s'est accélérée depuis 2022. Le musée national libyen s'est doté des technologies et moyens modernes et interactifs, a déclaré Walid Lafi, ministre d'État chargé de la communication. Le gouvernement de Beyba mise sur cette réouverture pour montrer que la vie suit son cours à Tripoli. Les grands moyens ont en effet été déployés pour la réouverture. Des spots publicitaires sont diffusés à la télévision où on y voit des stars de cinéma égyptiens et syriens parcourir les allées du musée.
Ouda Ibrahim à Tripoli, comme à Paris, il est 7h43 et vous êtes avec Julien Coquelle-Rohem.
Merci Edouard Dupénoit, on vous retrouve tout à l'heure. Et sur RFI, tout de suite, c'est le journal des sports.